Marché action, 7 titres que je surveille de près, 7 actions qui m'intéressent en bourse et pour des raisons variées, des raisons fondamentales, des raisons techniques par exemple. Ce titre évolue sur une technologie exceptionnelle ou encore c'est une machine à cash ou encore elle n'est pas chère en bourse du point de vue de sa valorisation avec un upside fondamental très important. Ou encore, il s'agit d'une bonne configuration technique, ou encore une entreprise qui revient de nulle part, voire une asymétrie ultra spéculative, ça peut être une valeur de la tech, une biotech, ça peut être une valeur de la santé, bref, tout secteur confondu. 7 titres, et peut-être un en bonus, 8, dont je vais vous parler. Attention !
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Je ne vous dis pas acheter aujourd'hui. C'est cette action. Mais je vais vous développer mes arguments, vous dire pourquoi elle m'intéresse. Naturellement, je compte sur vous pour passer tout ça à la moulinette de votre esprit critique. Partagez vos critiques à la fois positives et négatives. Dans le respect, une critique agressive perd toute crédibilité, et je serais très heureux que vous ne soyez pas d'accord avec un titre que je propose ou que vous mettiez en avant des risques, car nous sommes là pour échanger. Mais moi, je vous partage, vous savez, ici, toujours ce que je pense, et je partage toujours mes plans, et tout est public, et je n'efface aucune vidéo, et tout le monde peut reprendre ce que j'ai dit. Honnêteté et franchise. Alors, cette action, je vous donne le nom de ces 7 actions, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe ensuite directement là, derrière, sur mes slides fondamentaux, et bien sûr, nous allons tous toutes les regarder sur le plan de l'analyse technique. Alors, quelles sont-elles, ces 7 actions? Je vous les donne. Je commence par Aplovin. Aplovin, vous connaissez probablement Aplovin, ce leader de l'IA publicitaire, une petite pépite. Stratégie, Vertiv, Micron, Yongqiu, Nokia, Intelia, et peut-être que je vous dirai un mot sur AMD. Bien sûr, je mettrai aussi, comme chaque semaine, à jour mon analyse technique de l'indice S&P 500. C'est parti, nouvelle édition du Top Gun. 7, 6, 5, 4, 3, 0, 7 titres, les amis, 7 actions en bourse sur le marché actions mondial qui m'intéressent pour des raisons variées, techniques et fondamentales. Et j'espère qu'à chaque fois, chacune de ces raisons va vous titiller, va susciter votre intérêt. Attention, il n'y a dans cette vidéo aucun conseil en investissement. Et vous pouvez naturellement faire tout le contraire de ce que je vous propose. Le mieux étant quand même de réfléchir par vous-même et de vous poser la question de savoir est-ce que finalement ces 7 actions ont réellement un intérêt ou n'en ont-elles pas du tout. Chers amis, le plan, je voulais donner juste avant, dans une introduction que j'ai voulu courte. Et donc, comme je veux cette introduction courte, et je veux que cette vidéo soit à l'image de cette introduction, c'est-à-dire moins de blabla possible, alors que je suis déjà en train de blablater. Marché action, une thèse d'investissement long terme, c'est quoi alors? Thèse d'investissement long terme, je vais retirer long terme, mais bon. Voilà. Oui, alors moi, quand je construis mes PowerPoint, hein, quand je construis mes présentations, je pars sur différents... Alors, une thèse, voilà, c'est quoi? Marché action, une thèse d'investissement, c'est quoi? Vous voyez le titre ici qui se trouve en haut à droite. En fait, ce sont je cherche des sources d'intérêt à une action. Alors là, j'ai essayé de rassembler ce qui m'intéresse le plus. Ce sont des raisons soit fondamentales, soit des raisons techniques. Tout d'abord, donc, je ne l'ai pas mis dans ce tableau, ça peut être une raison purement technique. Moi, et je vais bientôt vous faire une vidéo sur ce sujet. J'ai des configurations techniques que j'estime être magiques, hyper puissantes. Il y a, sur les graphiques de long terme, des configurations graphiques ultra puissantes qui parfois ont lieu que tous les 3, 4, 5 ans, parfois même davantage. Alors quand elles se présentent, il faut les saisir. C'est possible que parmi ces 7 titres, il y ait une ou deux de ces configurations. Donc restez jusqu'au bout. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est chercher des asymétries. Chercher des asymétries. Asymétrie, risque. Un potentiel de hausse supérieur au risque de baisse. Une tendance structurelle forte. Alors, une asymétrie, une action qui m'intéresse en lien avec une asymétrie, c'est par exemple une asymétrie entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que le marché est demandeur d'un produit et il n'y a qu'une entreprise ou quelques-unes qui sont capables de proposer ces produits. Et la demande prospective est telle qu'il y a une visibilité sur le carnet de commandes de cette ou ces entreprises. Ça peut être aussi donc une tendance structurelle forte. La croissance vient d'une évolution mondiale profonde, pas d'un simple effet de mode. Cela peut être un avantage concurrentiel durable, c'est-à-dire une entreprise qui a un produit, elle est le seul à le faire, elle est seule, c'est sa technologie, son produit à elle, elle a très peu de concurrents, et logiquement, on peut se dire qu'il y a des bonnes raisons que le titre monte. Alors, attention, parfois, un titre peut être dans une tendance structurelle forte, avoir une asymétrie offre-demande et avoir le produit unique que tout le monde aimerait avoir, en tout cas un avantage concurrentiel, mais être déjà beaucoup trop cher. C'est pourquoi, dans les titres qui m'intéressent, je cherche des valorisations raisonnables. Une tendance structurelle forte, une asymétrie entre l'offre et la demande, un avantage concurrentiel et un titre qui soit pas trop cher d'un point de vue de ses fondamentaux. Car une entreprise peut avoir tout ce qu'elle veut en termes de perfection, peut avoir tous les avantages, mais être en tendance haussière depuis déjà tellement d'années et être en termes de rapport entre son prix en bourse et son chiffre d'affaires, son profit passé, ses profits futurs, déjà beaucoup trop cher. Donc il faut que la valorisation reste raisonnable. Ça peut être enfin une capacité exceptionnelle à générer du cash, c'est-à-dire des taux de marge incroyables. C'est ce que c'est la marge, hein. C'est, vous partez du chiffre d'affaires et puis derrière c'est l'EBITDA, c'est le résultat net. Quand une boîte a une marge nette de 50 ou 60%, imaginez, vous vendez 100, vous avez 100 de chiffre d'affaires, après toutes les charges, les coûts, etc., les salaires, et il vous reste 50 ou 60 dans la poche. Des marges comme ça, gling, 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 machine à cash, pareil. Alors, faut pas que l'entreprise soit beaucoup trop. Donc, moi, c'est ça que je cherche dans le marché. C'est ça que je cherche. Il y a des milliers d'actions à travers le monde. Je vous en propose 7. C'est 7 actions que je vais vous proposer. N'ont pas toutes ensemble ces qualités. Elles en ont au moins une. C'est pourquoi ça peut ne pas suffire. Mais moi, elles m'intéressent. D'ailleurs, je les ai probablement en portefeuille. C'est pourquoi ici, j'insiste, il n'y a pas de conseil en investissement ni d'incitation, mais simplement un miroir de la pensée analytique de Vincent Gann. C'est tout. Voilà. Et quand l'émission est terminée, vous pouvez éteindre la télé et supprimer et oublier, bien sûr, ces arguments. Non, mais j'insiste là-dessus parce que c'est important. Alors, 5 actions que je surveille pour différentes raisons. 5 actions que je surveille pour différentes raisons, elles sont ici. Alors, je commence par ce slide, parce que moi, j'aime bien la valorisation. C'est pour vous montrer que les actions dont je vais vous parler, elles sont vraiment sur des schémas variés. Certaines ne gagnent même pas d'argent. Eh ben oui. Je vais vous parler de 2 actions. Alors, elles font du chiffre d'affaires, mais elles sont pas rentables. Oui, dans ces 7 actions qui m'intéressent, il y en a qui sont pas rentables. Oui, mais on peut être pas rentable. Imaginez, l'action peut perdre 90% depuis son record. Ça peut être peut-être intéressant de la racheter tout en bas. Ça peut être aussi une asymétrie, ça. Après, moins 90%. Bon. Donc, je vais vous parler de l'action stratégie. Premier détenteur de Bitcoin du monde, ce sera assez rapide parce que je l'ai déjà traité dans mon émission spéciale sur Bitcoin. Je vais vous parler d'Aplovin avec son logiciel qui s'appelle Axiom et qui est une petite pépite quasiment unique de l'IA publicitaire. Je vais vous parler de Vertiv qui est le leader mondial des systèmes de refroidissement des GPU IA. Je vais vous parler de Micron, un des 3 leaders mondiaux de la mémoire vive IA. Et pour quelle raison je vous en parle de Micron alors que c'est déjà tout en haut vertical? Parce que c'est pas cher. Le PE forward est de 6. 6, c'est rien. Donc, l'action a fait 1000% en un an, 1000% d'hausse. Et son PE forward n'est que de 6. Un tout petit 6. Ça peut monter à 40 ou 50 en PE forward. Easy. Et ce serait même pas excessivement cher. Je vais vous parler de Strategy et YonQ qui sont pas rentables. Alors, je vais vous parler d'Aplovin, une petite pépite dans son domaine qui n'est pas chère malgré son parcours boursier récent. Je vais vous parler de Vertiv qui, globalement, est correctement valorisé, plus tellement bon marché, mais qui est leader dans son domaine. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à continuer de jouer. Et je vais aussi vous parler, parce qu'elles ne sont pas toutes ici, je vous les ai données en introduction, je vais vous parler de Nokia. Nokia, vous allez me dire Nokia. Nokia, c'est fini. Il n'y a plus de téléphonie, ils font plus de téléphone, ils font plus de smartphone de dernière génération. Ah oui, mais Nokia, ça revient fort. Ça revient fort dans l'intelligence artificielle. Et je vais vous parler de Intellia, une biotech ultra spéculative. Ultra spéculative. Et je vais vous donner aussi un mot de AMD. Alors c'est parti. Aplovin, une entreprise de croissance exceptionnelle. Et au passage, on regardera les graphiques. Donc Aplovin, c'est une entreprise de croissance exceptionnelle. Donc vous avez compris, Aplovin, ils ont une petite pépite, un petit logiciel qui s'appelle Axum. Ce qui est intéressant avec Aplovin, c'est que pendant longtemps, c'était un spécialiste des applications jeux vidéo. Puis ils ont tout arrêté. Ils ont tout revendu depuis 2025. Pourquoi ? Parce qu'ils sont leaders mondiaux. Ils ont un algorithme qui permet de faire du ciblage publicitaire tout secteur confondu, pour tout type d'activité, pour tout type d'application, tout type d'activité. Et c'est une pépite. Tout le monde demande leur algorithme. Ils sont capables de cibler exactement les prospects qu'il faut cibler avec le bon discours, le bon langage. C'est une pépite. Le chiffre d'affaires explose, les marges explosent. Et ça, c'est vraiment tout récent. 60% de croissance du chiffre d'affaires sur un an, une marge nette de 60%. Non mais est-ce que vous rendez compte, une marge nette de 60%. Vous avez votre chiffre d'affaires, vous passez les différents postes, tous les coûts divers et variés, vous arrivez au résultat net, et le rapport entre les deux, c'est 60%. Je vous jure, dans le marché, trouver une machine à cash, trouver des marges nettes de 60%, c'est compliqué. Et pourquoi ça m'intéresse, alors que le parcours boursier est déjà costaud, parce que elle est pas chère en termes de PE forward. Dans le secteur de l'IA, c'est rien un PE forward de 20. Donc celle-là, elle m'intéresse, c'est un horizon d'investissement sur 3-5 ans. Donc on peut dire que c'est une thèse de long terme. Elle m'intéresse et je vais vous montrer donc ici donc son graphique sur Aplovin. Donc c'est un titre qui a déjà bien progressé. C'est une tendance haussière, mais c'est une belle tendance haussière de fond. D'ailleurs, à l'époque ici, regardez, donc ça c'était l'ancien record de 2021, le breakout ici qui a eu lieu en septembre 2024. C'est une belle tendance haussière. Et moi j'estime que cette tendance haussière, dès lors que le marché entre dans une phase de correction, revient dans cette grosse zone support ici qui va se trouver entre les 250 et les $350, c'est une opportunité. En plus, le titre est dans une phase de prise de profit depuis maintenant quasiment un an, une phase de transition latérale, le potentiel est énorme, le titre n'est pas cher, ça c'est typiquement un titre qu'il faut acheter lorsqu'il revient au contact de sa zone support. Alors que je vais donner très large, entre 250 et $360, mais il y a déjà un premier support au niveau des $360. Donc ça, je ne sais pas si vous la connaissiez, mais c'est donc une petite pipette avec son logiciel Axum, spécialiste donc de l'IA publicitaire. Ils sont capables de dire en fait à chaque domaine, à chaque type d'application mobile, quel que soit le secteur, voilà exactement ce que vous devez faire pour optimiser vos campagnes publicitaires. Donc Aplovin. Ensuite, je continue. Deuxième titre dont je souhaite vous parler. Alors oui, Aplovin, par rapport à ses pairs, n'est vraiment pas cher sur le plan du fondamental. Je vous montre ici le forward ratio. Donc malgré sa hausse, alors le titre corrige depuis septembre dernier. Le PE forward n'est que de 23. On est vraiment sur un PE forward qui est très bas. Si vous comparez à Oracle, si vous comparez à Microsoft, si vous comparez à Netflix, surtout aussi à Palantir, on est vraiment dans le bas du tableau. C'est une machine à cash. Voilà. Ça, quand le marché corrige, on peut avoir le réflexe d'acheter Aplovin. Stratégie, une forte décote fondamentale. Alors pour stratégie, je vous renvoie notamment vers la vidéo spéciale que j'ai fait sur Bitcoin. D'ailleurs, vous êtes 15 000 à l'avoir regardé, je vous en remercie, en début de mois sur le fait que les cryptos, que Bitcoin, c'est une année d'opportunité. Si vous ne souhaitez pas investir sur Bitcoin, mais que vous cherchez un levier sur Bitcoin, vous invite à vous intéresser à l'action stratégie. L'action stratégique est sur un niveau de survente énorme. L'action stratégie dont la valeur actuelle de marché est inférieure à la valeur des bitcoins qu'elle détient. Le rapport entre sa valeur de marché et donc le ratio entre sa valeur de marché et ses détentions en bitcoin est sur le seuil le plus bas historique, est inférieur à 1. C'est une décote, c'est une opportunité de long terme. L'action perd 85% depuis ses records. C'est parfaitement aligné avec le cycle bitcoin, le fameux cycle de 4 ans de bitcoin. Et je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur le cours du bitcoin. Vous savez donc que le bear market cyclique du cours du Bitcoin se termine quelque part ici, donc à cette fin de troisième trimestre 2026, une année de bear market pour repartir sur 3 ans de hausse. Donc si vous cherchez un titre en bourse qui pourrait démultiplier le fait que Bitcoin termine son bear market et repart en tendance haussière de fond, c'est l'action stratégie. D'ici là, d'ici la fin du bear market, bien sûr, stratégie doit faire face à des échéances, des paiements de coupons, notamment divers intérêts. Et ce qui est intéressant, c'est que Strategy a mis en place une réserve financière qui est très importante, de plus de 2,5 milliards de dollars, qui lui permet de faire face à plus de 17 mois d'engagement financier. Alors que le bear market du cours du Bitcoin doit se terminer d'ici donc le mois de septembre, octobre prochain, l'action Strategy, pour moi, parfaitement aligné sur le cycle, l'alternance de cycle haussier, de bull market, de bear market du cours du Bitcoin, dans le cadre de son fameux cycle de 4 ans. Le titre a retracé quasiment 85% de tout son ancien bull market. Des premières divergences sont en train d'apparaître prime momentum. La valeur de marché est inférieure à ce qu'elle détient en Bitcoin. Elle a mis en place sa réserve. Bref, là, pour moi, on est sur cette fin d'année 2026, sur une thèse d'investissement long terme, surtout si vous croyez dans la poursuite du cycle de 4 ans de Bitcoin. La poursuite du cycle de 4 ans de Bitcoin, je vais réillustrer ça, hop, même si je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite. L'alternance, donc ce cycle de 4 ans structuré autour du halving quadriennal, cette succession de bull market, bear market, halving, bull run, 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 etc., etc., etc. L'action stratégie permet donc de jouer ça, mais sur le marché action. On est clairement ici dans une phase de bottomisation. Bref, l'action stratégie donc m'intéresse pour l'ensemble de toutes ces raisons. On continue. Maintenant, Vertiv, le leader du refroidissement des GPU IA. Alors, c'est un leader mondial. Il y a quelques gros concurrents, mais vraiment, Vertiv, en tant que pure player sur ce domaine, est vraiment le leader. C'est complètement indispensable aux GPU IA. En plus, Vertiv a mis en place, en fait, des produits qui sont spécifiquement dédiés aux GPU IA Nvidia, mais pas que, puisque vous savez que concrètement, Nvidia, c'est 80% du marché des GPU IA, AMD 10%, puis après, il y a le reste. Bon. Ça, c'est une façon de jeu. Et puis, c'est globalement, ça tourne autour des systèmes de refroidissement de tous les data centers en général. Et vous savez bien que il y a une asymétrie, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Il y a une visibilité de 3 à 5 ans sur la construction des data centers, sur la demande des data centers. Ça, c'est pareil. Tout à l'heure, je vous montrais Aplovin. Moi, j'estime que c'est un titre que lorsqu'il corrige, je reviens sur support majeur, il faut s'y intéresser. Vertiv, c'est pareil. Dès que vous avez une correction de la tech de court terme, se positionner sur Vertiv, c'est une bonne stratégie. Donc, on est vraiment ici, si vous voulez, sur un effet d'échelle grâce à la demande IA. Elle bénéficie de la croissance IA sans dépendre d'un seul modèle IA, car ces systèmes de refroidissement, en fait, sont compatibles avec tout type de data center. Donc, elle est correctement valorisée. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Elle est correctement valorisée. C'est déjà une belle tendance haussière de fond. Je suis d'accord. C'est une belle tendance haussière de fond. Elle évolue actuellement dans un range. Et moi, ces titres-là, je les connais. Dès lors qu'ils reviennent au contact de leur moyenne mobile à 200 jours, il faut se positionner. Donc, pour moi, un prix d'entrée qui serait intéressant, ce serait quelque part entre les 240 et les 275. avec une tendance haussière de fond qui a donc toutes les bonnes raisons de se relancer. Donc vous voyez déjà, dans cette vidéo, je vous ai montré des titres qui sont déjà dans une forte tendance haussière, mais pour de bonnes raisons, parce que ce sont des machines à cash, parce que ce sont des titres qui ne sont encore pas trop chers. Je vous ai aussi montré Stratégie qui est en baisse de 85%, mais qui a aussi de bonnes raisons là de se relancer à la hausse. On est sur des secteurs différents, des configurations techniques différentes, et à chaque fois, donc ces titres m'intéressent pour une raison en particulier. Ensuite, j'enchaîne avec YongQ. Là, c'est le pari de la révolution quantique. YongQ qui est un pur player de la recherche quantique. YongQ qui est un pur player qui cherche à construire des puces quantiques. Alors, le quantique, je vous en ai déjà parlé, notamment au Swiss Code Trading Day à Lausanne. Donc, j'ai fait le choix de YongQ parce que c'est un pur player. Alors, attention, YongQ, c'est beaucoup de chiffre d'affaires. Cette entreprise n'est pas rentable. Jouer YongQ, c'est jouer l'asymétrie long terme sur l'ordinateur quantique. Alors, l'ordinateur quantique, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est. Est-ce que c'est l'Internet de la fin des années 90, du milieu des années 2000, ou est-ce que c'est l'IA de 2015? La recherche avance vite. Pour l'instant, il n'y a aucun cas d'usage. Tout repose, vous avez, sur le qubit. Et pour le moment, on est capable de produire que quelques milliers de qubits. De qubits, il en faudrait des millions pour que ça commence à avoir un usage réel. Mais clairement, je pense que quelque part dans son portefeuille, il faut avoir un titre qui joue le quantique. Alors, ça peut aller à zéro. Hein. Si, année après année, malgré des milliards investis, on n'arrive pas, que les puces quantiques ne sont pas suffisamment puissantes et que tout cet argent est jeté par les fenêtres, ben ça va fortement retomber. Donc ça, je vous l'accorde. Et c'est pourquoi ce titre, moi, m'intéresse. C'est un titre hyper cyclique, qui fait régulièrement des corrections de moins 50, moins 60% avant de repartir. C'est le quantique. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, là, récemment, il a fait une correction de moins 50, moins 60%. Donc, si vous voulez, je pense que dans son portefeuille, c'est pas idiot d'avoir de quoi jouer l'ordinateur quantique sur le long terme. Donc voilà, ça, je vous rappelle un slide que je vous ai déjà montré, la différence entre le bit et le qubit. La puce quantique repose sur le qubit. YongQ, c'est vraiment un pur player. C'est complètement expérimental. Ça rapporte rien. C'est beaucoup de capex, beaucoup de dépenses d'investissement. Il y a du chiffre d'affaires, mais il y a quasiment, donc, un début, mais il y a pas de rentabilité. Donc, ça reste quand même extrêmement risqué. Mais c'est vraiment une asymétrie. Là, vous jouez l'asymétrie. C'est une option sur le quantique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un titre, en fait, qui fait régulièrement des corrections de 50, 60%. Et j'ai identifié un gros niveau technique ici, entre les 25 et les 30 dollars, avec la moyenne mobile à 200 semaines, cette énorme bande ici. Cette énorme zone de prix ici. Dites-vous bien que systématiquement, quand le marché revient, ici, ça paye. Et là, ça m'intéresse parce que c'est une option sur le quantique. C'est donc une asymétrie de long terme entre actuellement des dépenses qui sont massives. Ça rapporte rien, mais si les puces quantiques commencent à avoir un usage, là, ça peut exploser. Le marché, c'est des centaines de milliards. Donc typiquement, un titre YongQ qui revient dans cette zone, là, moi, ça m'intéresse. Voilà, j'ai dit que je vous parlais de titres qui m'intéressaient pour certaines raisons. YongQ, dans cette zone, entre les 25 et les 28 dollars, c'est un titre qui m'intéresse. Ensuite, je vais continuer, je vais bientôt vous montrer des structures techniques qui sont aussi intéressantes. Alors là, je vous parle de Micron. Micron, le pari asymétrique sur la mémoire vive IA. Micron, je vous en ai parlé déjà mille fois. Micron, un des trois leaders avec SKNX et Samsung de la mémoire vive IA. Cette mémoire vive dite HBM, dont les GPU IA ont absolument besoin. Micron, alors je vais dire, Micron, je vous montre le graphique. Vous allez me dire, mais il est malade de nous parler de ça. Voilà Micron. Regardez le graphique. Plus 1500% en un an. 1500% en un an. Vous allez me dire, mais ce mec est malade. Il nous parle d'un titre qui a déjà pris 1500%. Il y a quelque chose qui m'a frappé sur Micron. Frappé. Oui, le titre flambe. Oui, le titre a flambé. Mais son PE forward est le plus bas. J'ai dit que je vous en parlais pour une raison particulière. De tout le secteur des semi-conducteurs américains, de tout l'industrie des semi-conducteurs au sein du secteur de la tech, il faut être précis dans le jargon, de tous les actions de l'industrie des semi-conducteurs US. Micron est l'action qui a le PE forward le plus bas du marché. Et c'est pas 10 ou 15, c'est 6, c'est rien. C'est-à-dire que malgré ces 1500% de hausse, elle est archi pas chère. Donc, dès que le SP500 se fait une correction court terme, réflexe, faut acheter du micro. Vous avez le droit de pas être d'accord, allez-y. Bon, je vous rappelle que micro, la différence entre la mémoire vive IA ou HBM, c'est la super mémoire vive par rapport à la mémoire vive classique. C'est le business de Micron comme celui de SK Hynix ou de Samsung. Voilà, très bien. Pénurie de long terme parce que il y a une demande dans data center énorme, demande en IA énorme, donc demande en data center IA, donc demande en GPU IA énorme, donc demande en HBM IA. Maintenant, AMD. Alors, pourquoi je vous parle d'AMD? Je l'ai pas mis dans, en fait, c'est un peu le huitième. J'en ai d'autres qui arrivent, hein. J'ai encore, donc il y a encore AMD, Nokia et Intelia. Restez bien parce que Nokia et Intelia, c'est ultra spéculatif et ça va vous faire vibrer. Moi, ça me fait vibrer. Restez jusqu'au bout pour Nokia et Intelia. Pourquoi je vous parle d'AMD? Tout le monde connaît Nvidia, fabricant de GPU IA, d'accord? C'est les processeurs qui font tourner l'IA. Nvidia, c'est 80% de part de marché. Il n'y a pas de challenger. Enfin, s'il y en a un, justement, c'est AMD. Tout doucement, AMD vient d'atteindre 10% de part de marché. Il y a un rééquilibrage. Et enfin, les clients, enfin, ces clients, ils veulent pas être dépendants que de Nvidia. Sur le long terme, c'est pas bien de dépendre qu'à faire le fournisseur. Donc, il est tout à fait logique. En plus, ils ont des très bons produits AMD. Il est tout à fait logique que sur le long terme, petit à petit, il y aura un rééquilibrage Nvidia-AMD. Peut-être pas 50-50, mais AMD va continuer de prendre des parts de marché. Le seul problème avec AMD, c'est que c'est déjà cher en termes de PE forward. Mais malgré tout, le marché fait toujours des corrections. 40 en PE forward, oui, c'est cher, c'est pas non plus 80. Malgré tout, ce que je veux dire par là, c'est que quand la tech va corriger à court terme, et donc, rappelez-vous que toutes les corrections court terme de la tech sont des opportunités, vous pouvez vous dire, mince, j'en profite pour acheter Nvidia ou AMD. Il pourrait être intelligent ou il pourrait ne pas être idiot de vous dire, pourquoi pas plutôt mettre un peu de AMD, eu égard au fait que AMD, qui est le challenger de Nvidia, commence donc à gagner en part de marché. Petit à petit, peut-être là, 10% de part de marché, ça peut monter à 15-20% sur le long terme. Voilà. C'était plus une parenthèse qu'un des titres dont je voulais vous parler. Et maintenant, je termine sur deux titres ultra spéculatifs. Et je vous invite donc à vous boucher les oreilles et à absolument ne pas les acheter. Intelia, le pari, c'est une biotech qui travaille sur les médicaments capables de modifier l'ADN. Le pari sur l'édition génétique CRISPR in vivo. En clair, modifier l'ADN. Potentiellement, une validation clinique majeure pourrait avoir lieu par la FDA américaine en 2027. Actuellement, ça ne gagne rien. C'est pas rentable. Mais si à partir de 2027 et progressivement jusqu'à 2030, la FDA américaine, grâce à des, il faudrait des succès cliniques. Vous savez, tout le processus de validation par la FDA aux États-Unis, qui est le régulateur des médicaments US, si vous voulez. Le régulateur santé US. Si ça passe, si c'est du succès, si les essais sont bons, et que la FDA valide les médicaments Intelia Therapeutics, ça va exploser. Ça permet de guérir de nombreuses maladies rares par modification de l'ADN. Et je vais vous montrer la configuration technique qui est en préparation sur Intelia. Regardez, moi j'adore ce genre de structures en fait, qui sont des structures latérales qui durent des années avant la sortie par l'eau. Regardez un peu comme a fait GenFit. Regardez GenFit à l'époque. Rien à voir, mais bear market, phase latérale de plusieurs années, on sort par le haut, c'est parti, nouvelle tendance haussière. Intelia commence gentiment à faire ça. Ah, vous avez vu, hein, je vous ai montré dans mes 7 actions des trucs qui sont tout en haut, je vous ai montré des actions qui ont fait plus 1000%, et là je vous montre une qui fait moins 95. Potentiellement ça va à zéro. Mais si, Et c'est là où c'est asymétrique. C'est une asymétrie secteur de la santé, asymétrique biotech ultra spéculative. Si la FDA américaine, valide ces médicaments qui permettent de modifier l'ADN, Intellia, ça fera minimum ce que ça a fait là. Mais peut-être que s'il n'y a pas de validation et que les essais cliniques sont un échec, ça va continuer d'osciller de temps à zéro. Faites ce que vous voulez. Je vous montre juste. Renseignez-vous sur Intellia. Ça n'a rien à voir avec Micron ou Vertive ou Apovine ou encore Strategy. Ce sont des tests complètement différentes, mais ça m'intéresse. Et enfin, le grand retour de Nokia. Alors, Nokia, rappelez des téléphones Nokia, Nokia qui a complètement le manque de coche des smartphones, et ben Nokia revient, Nokia redevient rentable depuis un an, deux ans, car Nokia a pris le virage de l'IA. Nokia évolue désormais dans le secteur de l'infrastructure IA, et Nokia est pas cher, que ce soit en termes de price to sales ou de PE forward. Désormais, réseau télécom et optique IA. Ça y est, c'est fini Nokia, les téléphones pourris d'il y a 15 ans. Enfin, c'était des stars dans les années 2000, mais c'est devenu pourri avec les smartphones, avec les iPhones notamment. C'est le virage IA est pris. Et regardez-moi cette structure technique. Regardez, c'est comme GenFit, ça a fait comme GenFit. GenFit, regardez. Hop, le gros rang, j'en sors par le haut. Et Nokia, regardez, Nokia qui était une star entre 97 et 2000, a reculé, a refait une... 2007, c'est un peu reparti. Puis après, avec l'explosion des iPhones d'Apple... Ça a coulé. Là, ça fait un range de entre 2012 et 2026. Un énorme trading range. Ça, c'est une accumulation en termes entre 2012 et 2026. Et ça en est sorti récemment par le haut. Pour moi, tout retour sur la partie haute de l'ancien range, tout retour entre 8 et 10, ça se paye. Tout retour sur le titre Nokia entre 8 et 10, ça se paye. Tout retour entre 8 et 10 sur Nokia, ça se paye. Ça a pris le virage de l'IA. Les perspectives de profit sont là. C'est pas cher en PE forward, pas cher en price to sell. Ça, c'est une des configurations graphiques les plus fortes du marché. Sortir par le haut de 15 ans de trading range tout en bas. Ça m'intéresse. Dans ce genre de valeur, vous avez aussi Plug Power qui est en train de nous faire son énorme trading range tout en bas. Ou encore BNTX, BioNTech qui est en train de nous faire un énorme range d'accumulation. Ça, les configurations à la GenFit. Et configuration à la GenFit, ça m'intéresse. Mais, je vous montrerai ça plus tard, quand je ferai une vidéo sur les configurations techniques qui m'intéressent. Là, je voulais d'abord donc parler de Nokia. Voilà, chers amis, donc là, je vous ai parlé des 7 titres qui m'intéressent. Alors, maintenant, je vais vous parler rapidement du S&P 500. En ce qui concerne le S&P 500, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Sur le S&P 500, expliquant que le top final était encore devant nous. Ça, c'est pour le moyen long terme. Maintenant, je passe en revue juste le graphique court terme du S&P 500 et je vous laisse ensuite tranquille. Je reviens donc sur l'indice S&P 500. L'indice S&P 500 reste donc en tendance haussière de fond tant qu'il est au-dessus des 7000 points. Pour ce qui est du graphique court terme, au moment où j'enregistre cette vidéo, aucun support n'a été cassé. Le marché évolue donc toujours au-dessus du Kumo Daily du système Ishimoku, de la Kijun. Tant que à court terme, on tient les 7450, c'est haussier. Donc, sur le moyen long terme, tant que le marché est au-dessus des 7100, c'est haussier. Et à court terme, tant que le marché est au-dessus des 7450, c'est haussier. Quant à savoir jusqu'où d'ici la fin de l'année, et même si des corrections court terme sont possibles, ce marché peut aller, je vous renvoie donc vers le top gain que je vous ai donc proposé la semaine dernière. Chers amis, ainsi s'achève cette vidéo. Je vous ai parlé donc de 7 titres qui m'intéressaient pour des raisons diverses et variées. Et je vous remercie donc de votre attention pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Salut.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.